la deuxième partie de Gironde Analyse, l'émission 100% supporter, c'est tout de suite sur RIG à Bordeaux en 90.7 et sur le net sur girondeanalyse.com.
Allez, bonsoir à tous. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes bien dans l'émission Gironde Analyse sur RIG en 90.7 FM. Et nous sommes ensemble pour un petit peu moins d'une heure d'émission maintenant. Et nous avons ce soir un invité exceptionnel puisqu'il s'agit donc de Nicolas Bourcade, sociologue. Si, je pèse mes mots, voilà. Donc avec nous pour parler justement donc de tout l'univers supporteriste en France. On va donc parler désormais donc des tribunes bordelaises. Juste avant, hein, vous dire que si jamais vous voulez nous rejoindre, posez vos questions sur le chat. Rien de plus simple, vous êtes donc sur le site de girondin33.com ou girondinalyse.com et donc vous n'hésitez pas, allez poser, voilà. Ah, j'ai pas mis le micro encore, messieurs. Oui,
alors, c'est bon. Je vais en profiter avant qu'on débute pour la reposer. Alors, c'est autre choix qui nous. C'était plus. C'est pas vraiment une question, plus une réflexion que j'ai pas eu le temps de placer. Alors, vas-y. Attendez, je le retrouve. Hop.
C'est très radiophonique.
Ça, mais non, mais parce que ça a un rapport avec le métier de notre invité.
Ah.
Meuble, je le cherche. Meuble.
Très bien. Alors,
c'est un grand moment. Meuble, je cherche.
Tu vas avoir l'habitude de passer sur des radios un peu plus pro que la nôtre.
Non, moi là, je suis très bien. Je vous remercie. C'est sympa. On a le temps de discuter. On est tranquille. C'est quand même agréable pour tout le monde. Enfin, moi, je trouve.
Puis le temps de parler aussi, ça. C'est
voilà, ouais. On n'a pas toujours le temps de parler. Et puis.
Allez, c'est bon, compte sur toi.
Allez.
Moi, je peux meubler parce que sur l'idée d'RIG, il y a des gars du Virage Sud qui ont fait différentes émissions sur RIG à différentes périodes. Et ça rejoint un peu cette mentalité associative, indépendante, de faire des choses soi-même. Et donc moi, je trouve que c'est aussi intéressant ces espaces où, au départ des jeunes, puis c'est souvent des jeunes qui font ça, peuvent. Non, mais peut faire.
Moins jeunes, tu vas arriver ici quand on voit les gens. Il y a tous les âges, franchement.
Non, mais au départ, tu vois, tu crées ça quand t'es.
Au début, ça se crée
quand t'es jeune. Et je trouve que ces espaces que tu peux avoir dans les stades ou l'idée de radio associative qui vont sortir du cadre habituel, c'est une vraie respiration. Donc voilà. Et puis après, ben, c'est sûr que sur une radio pro, quand tu retrouves pas la question tout de suite, c'est dramatique. Ici, on s'en fout.
Il va la reposer. Les auditeurs sont associatifs. Peut-être poser la première question, puis derrière on y revient, Seb, ça te va ? Alors donc on va parler donc des tribunes bordelaises. Alors on a parlé donc des groupes ultra, on a parlé donc des groupes organisés. Il y a deux grands groupes, on va dire, qui ont marqué l'histoire des Girondins, dont un qui existe encore aujourd'hui, mais un autre je crois que tu connais plutôt bien, qui est dissous aujourd'hui. Tu vas peut-être pouvoir nous en parler. Donc c'est évidemment donc les Devils, donc groupe qui n'existe plus aujourd'hui, et les Ultramarines. Comment est-ce que ces groupes donc se sont-ils construits? Comment est-ce qu'ils ont évolué?
En fait, il faut partir du Virage Sud des Ultramarines. En gros, à partir de la deuxième partie des années 70, ça va se constituer progressivement au niveau du tableau d'affichage. Donc, ce qui serait en gros au milieu du Virage Sud, la partie latérale sous le toit au milieu, se constitue un petit groupe qui va être toujours là, avec drapeau, etc. Au début des années 80, avec le club qui commence à prendre des résultats, ça prend de l'ampleur. T'as de plus en plus de drapeaux, des petites banderoles accrochées, des fumigènes.
Alors, tu peux revenir aussi sur l'époque un peu baise.
J'allais le faire.
Question spéciale là-dessus. Ouais.
Ne t'inquiète pas, je vais le faire. Là, pour l'instant, je suis juste au début des années 80. Le COP se constitue. Il y a le match contre la Juve dont on a parlé en 85. Et donc là, certains des jeunes du Virage qui sont allés à Turin veulent implanter le modèle ultra qu'ils ont vu là-bas et créer les Ultramarines. Alors, au départ, la première année, c'est un succès assez incroyable. Moi, j'ai commencé à aller au Virage. Bon, j'allais au stade avant, mais au Virage, moi, j'avais 16 ans en 87, ça a été la création des Ultramarines. Et à un moment où t'as envie d'aller dans le Virage, le stade change. En gros le stade inauguré en janvier 87, le nouveau stade avec le vrai Virage, et puis les Ultramarines se créent au début de la saison 87-88. Donc là ils ont 400 adhérents, ce qui est à l'époque considérable. Il y a un vrai appel d'air parce qu'il y a plus vraiment de groupes de supporters actifs à Bordeaux. Le problème, c'est que les Ultramarines, dans la logique ultra, ils affirment leur indépendance. Moi, je me souviens, l'un de leurs premiers tracks, c'est enfin un groupe de supporters indépendants à Bordeaux. Alors, pour ceux d'entre vous qui ont connu Claude Bèze, Bon, moi j'en parle en connaissance de cause, mon oncle a été vice-président des Girondins de Bordeaux à cette période, donc j'ai beaucoup, enfin moi, la grande période des Girondins, pour moi c'est cette période-là, hein. On entendait au générique Bordeaux-Milan, moi c'est un moment que j'ai adoré, mais moi le grand match, ça reste Bordeaux-Juventus, même si on perd. Donc on a un grand club, on a un président qui a fait beaucoup pour les Girondins, mais qu'en termes de démocratie et de pluralisme, était pas champion. Donc l'idée que des jeunes arrivent et en disant, mais nous on a quelque chose à dire sur le club, ça n'a pas été apprécié à sa juste valeur. Et puis en plus, bah, y a quand même le drame du diesel dont on a parlé. Donc les ultramarines arrivent, tout le monde se dit, oulala, c'est des fous, c'est des hooligans, c'est des fachos. Et c'est les articles qu'on cite toujours de 88, Sud-Ouest fait, donc les ultramarines ont déjà un semestre d'existence, un peu plus. Le Sud-Ouest interroge un premier jour Thierry Solo, le président des ultramarines qui est aujourd'hui aux Irréductibles. Et le titre est parlant, c'est, il dit, on est fou de foot, pas hooligan. Et il explique qu'est-ce que c'est que la logique ultra. Et le lendemain, t'as Claude Besse qui, avec toute sa subtilité, fait une interview en disant il faut chasser les ultras, c'est des fachos, c'est bon. Y a une incompréhension qui est liée au fait que ben Besse tolérait pas une prise de parole alternative. C'est bon, c'est toujours les anecdotes qu'on ressort sur le fait que quand ils refont le stade, on fout les journalistes avec le soleil dans la gueule. Dans la gueule, enfin, ouais. Voilà, dès que ça allait pas. Bon, et donc les ultramarines, ça, il a pas, Besse a pas du tout apprécié ça, et donc le groupe s'est peu à peu périclité. Et en fait, à la...
C'est tout est normal, c'est ma faute.
Il y a eu un micro problème technique, mais moi appuyé sur un mauvais bouton. Mais tout va bien.
En fait, j'avais laissé le son très fort dans le studio, c'est pour ça que ça...
Et à la fin des années 80, il y a une volonté de jeunes générations, des gens de mon âge, donc on avait 18 ans, on était pas mal de vouloir relancer un peu le truc, parce que ben, les ultramarines étaient mal vus par le club, et parce que aussi c'était un groupe d'amis qui se connaissaient depuis longtemps, dans lequel c'était pas forcément facile d'entrer. Et donc il y a eu plein de jeunes qui ont eu des idées de lancer des trucs... Bon, il y a eu la période Marine Corps aussi où certains ont pensé constituer ça, mais avec pour certains une idée politique et pour d'autres qui n'avaient même pas capté ce qu'il y avait derrière. Et puis finalement, le truc qui est parti, c'est un groupe qui s'appelait Blue Devils au départ, puisqu'on jouait en bleu à l'époque, qui est fondé par Christophe Gillot à la fin des années 80. Il fait sa banderole et puis en 90 il lance le groupe. Et puis là, ben, on est à peu près toute la génération de ceux qui osaient pas trop ou qui n'arrivaient pas trop à rentrer aux ultramarines. On se met aux Devils et du coup, ben, ça lance ce deuxième groupe, et puis ça relance les ultramarines aussi assez rapidement. La fin de l'herbèse fait du bien quand même finalement, parce que même si on fait une saison en D2, c'est une saison où on se ressoude pas mal en termes de tribunes. Et c'est aussi, ben, tu passes. Enfin, moi j'ai fait des matchs où tu pouvais pas rentrer la banderole de ton groupe, où tu te battais à coups de parapluie parce qu'on a on se faisait taper dessus par les stadiers. Enfin, des trucs un peu rudes, hein, sur la période Besse, ça a été c'était pas marrant tous les jours. Donc après quand le club repart avec Afflelou d'abord, et puis bon ensuite avec la direction qu'on connaît, même si ça n'a pas toujours été facile, les relations étaient plus gérables, et donc les ultras et les Devils ont pu se constituer, avec au départ forcément des différences de génération. Donc au départ c'était pas forcément très facile d'avoir les deux groupes qui cohabitent, mais très vite ça s'est rapproché, ça s'est concrétisé par la création du collectif Virage Sud, avec l'idée que ben, y avait une complémentarité. Et donc ça a tenu une bonne dizaine d'années, avec une entente entre les deux groupes qui était bonne, une coordination au niveau des tifos, des sections, des déplacements qui était pas mal. Et puis ben après, ben pour des raisons internes au Virage, au Devils, il y a des tensions qu'on retrouve dans plein de villes, hein, finalement, dans plein de clubs, entre des différentes manières de concevoir le groupe. Et puis ben les Devils ont disparu en 2006.
Autodissolution,
hein, du fait de conflits internes entre différentes franges du groupe. Moi, ce que je regrette, moi j'étais des vices de 90 à 95, et puis après bon, j'avais des amis encore, donc je suivais. Ce qui est un peu dommage, c'est finalement quand tu parles avec les gens, tout le monde, c'était des mecs qui étaient tous attachés au groupe, mais pas de la même manière. Et je pense que l'erreur que les gens qui étaient dans le groupe ou qui étaient proches du groupe ont pas réussi à dépasser, c'est de se dire bon, on a le droit d'aimer le groupe différemment, et en gros chacun voulait l'aimer à sa manière, pensait que sa manière était meilleure, et puis voilà. Donc bon, après des dissolutions de groupe comme ça, on en a rencontré dans pas mal de clubs. C'est pas des choses relativement banales au niveau du mouvement ultra. Ensuite après t'as les ultramarines qui sont tout seuls comme groupe. groupe avec les avantages, parce que c'est plus simple de gérer tout seul une tribune, et puis c'est un groupe qui avait l'expérience, qui savait faire ça, et aussi avec l'inconvénient que t'as plus l'émulation, en fait.
C'est ça.
T'as plus l'émulation. Alors bon, après, moi, c'est dur de juger sur aujourd'hui ce que c'était avant, parce que ben moi, comme j'habite plus Bordeaux depuis un petit moment, et que en gros, ouais, je pense que j'ai dû lâcher l'abonnement vers 2005-2006 à peu près. J'ai pas une vision très claire de ce qu'est le virage aujourd'hui. Je fais 4-5 matchs par an maximum, donc je pense qu'il y a plusieurs évolutions qui sont pas favorables, des évolutions sportives. Sortie de l'année du titre, ça n'a pas toujours été fabuleux. Donc là, je pense qu'on est dans un creux, mais qu'il y a un creux qui dépasse pour moi très largement le niveau ultra. Je pense qu'il y a un désamour de la population par rapport au club. Et que finalement, c'est pas spécialement le modèle ultra qui est en cause, puisque voilà, le virage sud continue à jouer son rôle. Ce qui est plus inquiétant, c'est pas tant le nombre d'ultra qu'il y a dans le virage, ce qui est le fait que le virage puisse être aussi vide. Et ça, je sais pas si c'est, enfin, je pense que c'est des causes beaucoup plus profondes que les évolutions internes du mouvement ultra bordelais.
Et ça rejoint ce qu'on disait en début d'émission, quand ça, enfin, c'est là, on retrouve à Bordeaux ce qu'on retrouve dans la plupart des stades en France, à part quelques exceptions, là, quand ça tourne, il y a du monde, quand ça tourne pas, il y a personne. C'est valable pour n'importe quoi. Regardez même le rugby, quoi. Bègle en Pro D2, ça faisait 3000 personnes. Aujourd'hui, ils remplissent l'Escure, quoi. C'est. Non, enfin, je sais pas.
Oui, non, je suis d'accord avec toi jusqu'à un certain point. C'est-à-dire que, effectivement, les résultats jouent énormément et les résultats font que tu vas avoir du monde ou pas avoir du monde. Mais je crois que depuis les années 2010, les gens ont du mal. Enfin, moi, je regarde les matchs plus à la télé, donc maintenant, mais. Faut vouloir quand même. Faut vouloir aller à l'Escure à certains moments. C'est-à-dire que ces dernières années, ça a été beaucoup de matchs, c'était des purges, quoi. Donc c'est quand même très difficile. Et je pense que le club devrait quand même s'interroger sur son positionnement. C'est pas uniquement de savoir s'il faut avoir plus d'argent, etc. Bon, puis en plus, on va pas faire ce débat là ce soir. Mais à certains moments, tu voyais des matchs, tu sentais pas d'envie, pas de volonté de jouer. Moi, il y a un championnat. Enfin, les gens parlent beaucoup de l'Allemagne aujourd'hui. Je trouve qu'il y a un truc qui est quand même vachement intéressant avec l'Allemagne, c'est que mine de rien, les mecs jouent au foot pour gagner, quoi. Et que même s'ils ont parfois les pieds carrés, au moins ils essayent de marquer des buts. Nous, quand on a joué certains matchs où tu te fais des 0-0 contre des équipes improbables, il y a un moment où c'est plus possible. Donc, je pense qu'on a été, enfin, on a été complètement plombé par la saison post-titre. Où on fait une première demi-saison d'enfer, on doit être champion là, la dernière saison de blanc, et on gère complètement mal la fin de la période blanc. Et donc je pense que ça joue aussi par rapport au public. Il n'y a plus de jeu, il n'y a plus vraiment de résultats, et les gens ne savent pas où vont les Girondins. Donc c'est dur de se reconnaître dans le club aujourd'hui. C'est quand même assez compliqué.
Petite question encore une fois, donc par rapport aux ultramarines. Alors aujourd'hui, c'est vrai que les ultras sont le seul groupe réellement organisé, on va dire. Bon, alors il y en a d'autres, hein, on va parler évidemment des irréductibles, voilà, il y a quand même d'autres groupes qui sont, mais en tout cas pour mettre l'ambiance, c'est le seul groupe aujourd'hui qui est là.
Ah oui.
Pourquoi est-ce qu'à
Bordeaux,
en tout
cas les groupes bordelais, parce qu'après il y a d'autres groupes. Oui. On a parlé en antenne tout à l'heure des Marines et Blancs de France, on a d'autres, on a vu les Marines et Blancs de France, etc.
Mais donc du coup, pourquoi est-ce que à Bordeaux ça ne prend pas justement le fait qu'il y a un deuxième groupe, et je parle notamment du côté du virage nord.
Alors il y a deux problèmes parce qu'un deuxième groupe, on a vu sur l'histoire du virage sud qu'il y a eu un deuxième groupe, et c'est pas dit qu'un jour il n'y ait pas à nouveau un deuxième groupe au virage sud. Je pense qu'il y a le potentiel pour qu'un jour quelque chose se réaffirme. Bon, c'est pas dans l'air du temps, parce que je pense que maintenant les ultramarines sont appropriés la tribune, et à court terme, je vois pas.
Bien sûr qu'ils veulent la part qu'ils veulent la partager, ouais.
Non, au-delà de ça, ils se sont appropriés la tribune, et c'est pas forcément facile pour un deuxième groupe d'apparat, mais je pense que c'est des trucs qu'il faudrait pas, y compris dans l'intérêt des ultramarines, pas forcément rejeter. Je veux dire, ça peut être un groupe qui se positionne différemment. Enfin, bon, voilà, mais sur le virage nord, c'est un problème complètement différent. Actuellement, on va déjà essayer de peupler le virage sud.
C'est vrai que ouais. Non, mais par
après,
exemple,
on verra. Non, mais
en 2009, par exemple, les Océaniques, c'est la
ouais,
dernière.
Non, je pense que les seuls qui est vraiment.
Il y avait du monde au nord à cette époque.
Les partisans.
Les grosses périodes, c'est les Aliénors et les partisans. C'est à ce moment-là où il y a des groupes où le virage nord est plein et où ça peut chanter. Mais bon, l'enjeu, c'est d'abord, avant tout, d'avoir un COP. Et là, le nouveau stade peut changer les choses, parce que bon, on a parlé de l'architecture température du stade qui est pas favorable. Dans le nouveau stade qu'il va falloir remplir, soit dit en passant, il faut voir comment le COP va se constituer. Alors, l'enjeu, ce sera principalement là, qu'il y ait un véritable COP qui soit plein et qui soutienne l'équipe. Parce que, ben, mine de rien, ça fait partie aussi, c'est aussi une des raisons pour lesquelles les gens vont au stade. Faut pas se leurrer, hein. Les gens vont au stade, on l'a dit tout à l'heure, pour la qualité du jeu, bon, on l'a pas toujours. Pour les résultats de l'équipe, bon, on les a pas toujours. Et parfois, ben, le spectacle que le COP assure, c'est quelque chose qui motive les gens. Moi, je me souviens d'une conversation qui m'avait fait marrer. Je sais plus, on faisait la queue pour acheter un billet de Coupe d'Europe au début des années 2000. Le type disait, moi, j'ai une place idéale. Le type qui faisait la queue à côté de moi, je suis en latéral sud. J'ai le spectacle, je vois à peu près bien le match, hein, et j'ai le spectacle du virage sud devant moi. Donc, il y a des gens qui viennent au stade aussi pour le spectacle de la tribune. Donc, avant de repeupler le virage nord, je pense que l'enjeu, c'est que Bordeaux, enfin, la population bordelaise se réconcilie avec son club, voilà, que les ultramarines soient plus isolés, parce que quand le virage sud est c'est pas rempli, bon, les ultramarines, ils sont là, enfin, ils bougent pas, ce sont eux qui sont sous le toit. Il faudrait que derrière il y ait soit de nouveaux adhérents, soit une tribune qui soit remplie. Moi, l'an dernier, ça m'a fait un choc terrible quand j'ai eu la chance immense de voir Bordeaux-Reims en tribune de face, un 0-0 en avril, j'amène mon fils. Et je rentre dans la tribune, 5 minutes avant le début du match, et putain, le virage sud est pas plein. Je me dis, merde, il doit y avoir grève, etc. Qu'est-ce qui se passe? Et puis quand je comprends qu'en fait, il y a plus suffisamment de monde pour que les ultras soient tout en haut, quand ils se mettent à chanter, sortir le truc. Moi, j'avais pas vu le virage comme ça depuis la D2. Donc, avant de penser créer un deuxième groupe au virage nord, faudrait que
les gens reviennent au stade.
Faut que les gens reviennent au stade. Et ça, c'est pas uniquement. Enfin, je pense que c'est une réflexion que le club doit avoir aussi, que les supporters doivent avoir pour fédérer.
Si on revient un petit peu dans le passé, donc on a parlé des partisans, des Aliénors.
Pourquoi
ça prend pas? Beaucoup parlent du fait que la population du virage nord est différente de celle du virage sud, un public plus ancien, plus...
Déjà, le virage sud est relativement grand, donc il absorbe assez largement la population de ceux qui sont des fans. Et puis après, où c'est qu'il y a deux COP? Où c'est qu'il y a deux COP en France?
On avait Paris, on avait Marseille.
Il y avait Paris, il y avait Marseille, il y a Saint-Etienne, ouais, avec les Green Angels qui tiennent. Lyon, ils ont une période où il y avait deux COP quand les deux, quand le club enchaîne les 7 titres, le virage sud avait une certaine ampleur. Là, aujourd'hui, le virage sud, il y a des groupes ultra.
Lens, il y a quand même plusieurs groupes aussi.
Ouais, mais ils sont tous dans la même tribune. Tu vois, l'exemple du virage sud de Lyon est assez parlant. Quand le club était au top, ils avaient quasiment deux virages. Là, maintenant, il y a un noyau d'ultra en bas du virage sud, mais ils arrivent pas, retrouver l'ampleur d'avant. Et donc je pense tout simplement Bordeaux, y a pas les résultats sportifs suffisants actuellement, et puis il y a pas un bassin de population, et puis une tradition. Enfin bon, Saint-Etienne, le fait d'avoir deux COP, c'est quand même lié aussi à Saint-Etienne a longtemps existé uniquement par son public. Bordeaux a pas d'abord existé par son public. Bordeaux a d'abord existé par son équipe, la qualité de son jeu, etc.
Et à Saint-Etienne aussi, c'est un peu caricatural de le dire. À Lens aussi, s'il y a pas le foot, il y a pas grand chose d'autre à faire. Bordeaux, c'est quand même autre chose.
Allez une fois dans votre vie à Saint-Etienne, à Lens, pas pour être méchant.
On n'irait pas y passer ses vacances, quoi.
La région stéphanoise est très agréable. Oui. Mais il est vrai que la ville est pas la plus belle de France, mais la région est très agréable.
On va donc. Alors j'aimerais donc poser une petite question qui n'était pas prévue initialement dans le programme.
Terrible.
Alors.
Sur la colle, ça.
Non, du tout. C'est juste en fait, on a donc aujourd'hui, quand on regarde bien, aussi des supporters girondins dans toute la France. Tout à l'heure, Aymeric les a cités rapidement. Alors on va pas faire une liste exhaustive parce qu'il y en a beaucoup, rien. Mais donc parmi les plus importantes, les Marinés Blancs Île-de-France quand même, qui comptent aujourd'hui. On peut le dire vraiment le paysage des supporters bordelais.
Et que nous saluons.
Évidemment. Petite pensée.
Une petite pensée pour Nicolas Charpentier que j'ai vu il y a pas longtemps.
On le remercie encore, c'est grâce à lui qu'on a eu le contact avec Nicolas Orcade et qu'on l'a là. Merci Nicolas, merci Nick Byrne.
Juste, j'enchaîne. J'ai envie d'enchaîner sur les Marinés Blancs et France tout de suite parce que, en fait, je pense que le problème de Bordeaux, on était en train de dire pourquoi il n'y a pas un deuxième groupe ultra. Je pense que le problème principal, il n'est pas là. En gros, il faut que les différents types de supporterisme puissent être représentés. Si tu veux être ultra à Bordeaux, tu peux être ultramarine. Je veux dire, c'était peut-être plus simple quand tu avais deux groupe, tu pouvais choisir, mais bon, maintenant si tu veux être ultra, tu peux. Par contre, l'absence de groupe type Marine et Blanc, Île-de-France, basé sur Bordeaux, c'est plus dommage, parce que c'est des gens qui veulent soutenir leur club, être actifs, mais qui sont pas forcément dans une mentalité ultra, vraiment.
Non,
et donc, en gros, ce qui est un peu dommage à Bordeaux, c'est que soit t'es ultra, soit t'es pas. Et soit rien. Et donc, ça incite pas à fédérer. Je pense, quand je disais un second groupe au virage chute, ça pourrait être un groupe, comme les Irréductibles aujourd'hui, s'ils prenaient plus d'ampleur, parce que là, c'est essentiellement, des gens qui se retrouvent, qu'on connaît, qui sont un peu plus âgés que moi, enfin, je vois, quand je
reviens au virage.
Voilà, c'est ça. Donc, eux, c'est avant tout un truc convivial entre eux. Mais avoir un groupe de supporters type Marine et Blanc, Bordeaux, Marine et Blanc Bordeaux, qui viendrait, qui rassemblerait des gens qui vont suivre les ultras sur certaines actions mais qui vont pas être dans la même mentalité, ça pourrait fédérer d'autres personnes. Et là, à mon avis, il y a un véritable enjeu, parce que il y a des sections ultra qu'on connaît sur l'ensemble du territoire, mais la dynamique des marinés blancs, parce qu'il y a plusieurs marinés blancs
sur les Franche-Comté aussi,
ce serait pas mal d'avoir un truc similaire sur Bordeaux qui fédérerait ces gens qui...
Alors, l'enjeu, ça serait l'entente après entre les deux.
Mais ouais, mais
non. Pas forcément gagné.
Mais si, parce que en fait, de toute façon, dans les tribunes telles qu'elles sont conçues, c'est les ultras qui mènent la dynamique. Mais après, un groupe ultra est puissant si derrière il a de la base. Le groupe ultra, il a besoin d'avoir des gens qui sont actifs, qui sont impliqués. Mais les groupes ultra, ils seront jamais 4000 à Bordeaux. Le problème, c'est quand t'as pas la base derrière. C'est ça qui manque aujourd'hui. C'est pas qu'il y ait pas de groupe ultra. Les ultras, ils sont là. Et le problème, c'est qu'il y a personne derrière.
Mais c'est bizarre, parce que la base, alors pour ces derniers temps, ces dernières années, je l'ai constaté. La base, à la limite, j'ai envie de dire, elle y est, enfin, il y a une partie. Le problème, c'est que les gens ne suivent pas. C'est-à-dire que les gens te font comprendre qu'ils sont avec toi, c'est bien ce que vous faites, mais quand concrètement on fait. À chaque fois, je reprends cet exemple, mais c'est ce qui m'a le plus marqué. Quand il y a 3 ans ou 4 ans, ou pour l'Antigana, pour le Bordeaux-Auxerre, on dit, on distribue un nombre de papiers incalculables autour du stade, les trams, les machins. On dit voilà, on fait un truc, on rentre tous après au bout du premier quart d'heure. Le nombre de gens, et j'en ai distribué des papiers, et j'étais pas le seul, et le nombre de gens qui nous disaient à la sortie des trams, mais c'est bien, on est avec vous, on vous soutient, nous aussi, on en a marre. Et que quand tu rentres, toi, comme un gland, au bout d'un quart d'heure, tu t'aperçois que t'es tout seul à rentrer au bout d'un quart d'heure, que tous les autres, ce que je veux dire?
Ça a toujours été comme ça.
Mais il y a ce que les gens disent et ce que les gens font.
Oui, mais dans toute vie associative, t'as des gens qui sont impliqués et t'as des gens qui suivent. Tu le retrouves partout en dehors du monde ultra. Et toutes les grèves d'ultra dans tous les clubs, t'as toujours le noyau dur qui dit on va faire une grève, et puis les gens qui chantent jamais d'habitude, qui ce jour-là vont avoir une chantée, comme par hasard. Enfin, tu retrouves toujours ça. Mais en gros, la grosse difficulté des ultras dans leur positionnement, et là ça dépasse complètement Bordeaux, c'est de dire que la tribune elle est avec toi, elle doit pas être contre toi. Il y a beaucoup de groupes ultra qui quelque part se construisent en disant nous on est l'élite et les autres on vous emmerde. Et ça il faut pas, enfin je suis pas là pour leur donner le sang, mais je pense que c'est une erreur, parce qu'en gros les groupes ultra qui réussissent, c'est des groupes qui arrivent à fédérer et qui arrivent à dire bon mais on est le groupe de votre tribune, et nous on est peut-être plus impliqués, etc., et on n'est pas forcément complètement dans le même délire, mais vous êtes avec nous. Et c'est ça qui est difficile, c'est-à-dire que les ultras ont à la fois une volonté d'être nombreux pour pouvoir foutre de l'ambiance et d'être une minorité active,
élitiste.
Et en gros, mais là c'est pas du tout spécifique, enfin c'est pas une problématique bordelaise, c'est une problématique beaucoup plus large, c'est comment t'arrives à être un groupe ultra en étant à la fois élitiste avec ta mentalité, enfin tous les trucs qu'on évoquait tout à l'heure, et d'être capable de fédérer la tribune. Et c'est pour ça que si t'as un groupe, un fan club type Marine et Blanc, qui va amener les gens, qui va les rassembler, qui va faire en sorte qu'ils soient dans le virage, et qui vont participer peut-être moins activement ou différemment aux activités qui sont organisées par les ultras, tout le monde s'y retrouve. Parce que de toute façon, on voit bien, les marinés blancs Île-de-France aujourd'hui, quand ils sont en déplacement, ils savent très bien qu'ils sont c'est les ultramarines qui mènent le truc. Ça se passe comme ça dans beaucoup de clubs. Mais ce qui manque à Bordeaux, c'est un peu cette diversité associative. Et c'est pour ça, on en reparlera peut-être tout à l'heure, que l'idée, là, le projet qui a été lancé, que j'ai suivi très loin, là, que j'ai regardé sur Internet de Socios, je trouve que c'est pas mal. Parce que, alors je connais pas suffisamment le projet, mais moi j'ai suivi beaucoup plus à la Nantaise, donc l'association qui défend la seule grosse association à l'échelle française qui défend l'actionnariat populaire. Là, tu pars sur autre chose. Tu pars sur l'implication des supporters dans le club, la possibilité pour eux de participer au rouage du fonctionnement du club. C'est autre chose.
Dans un dépassement de fonction, presque. Passivité, même si les supporters sont actifs dans le sens où ils chantent, font des animations, mais ils sont passifs dans la gestion du club. Là, pour le coup, avec Alain Nantaise, avec ce qu'essaie de faire Christian, qu'on avait
qu'on a vu au téléphone avec son projet, ce serait plus de l'activisme, mais dans le club.
Et en gros, je pense qu'il faudrait, mais le nouveau stade peut être un moyen de développer ça, que tu puisses avoir un pluralisme qui fasse que selon ta sensibilité, tu puisses t'impliquer dans les supporters à Bordeaux. Ben, ceux qui veulent aller dans des types ultra, ils ont les ultramarines. Ceux qui veulent aller sur du festif debout, mais pas forcément ultra, ils vont dans un truc style Marine et Blanc, Île-de-France ou autre. Ceux qui sont super impliqués sur comment évolue le football, comment évolue mon club, ils adhèrent. Et puis bon, il y a des gens qui peuvent aimer plusieurs trucs, quoi. Mais oui, actuellement,
chacun s'y retrouve.
Que chacun puisse s'y retrouver.
Mais il y a juste, on passe à autre chose après ou on...
Oui.
Alors,
on va finir sur Bordeaux.
Bah non, mais juste pour terminer sur ça, parce que en soi, moi, je l'entends bien, son discours, il est gentil. Le mec, il veut devenir président, il veut devenir recruteur, il veut devenir.
Non, non, non.
Pas de souci. Non, mais enfin, j'exagère, non. Mais je veux dire. Moi, je l'entends très bien, ça. Il n'y a pas de souci. Mais à un moment donné, quand je dis, il y a ce que les gens disent et ce que les gens font, son truc, c'est peut-être très bien, mais c'est mort. Pour moi, c'est mort-né, c'est mort dans l'œuf.
Eh ben, écoute,
on vit des temps, là, regarde, on vit des temps compliqués. On le voit ici, nous, à travers les gens qui appellent, ou le chat, ou même avec les gens avec qui on discute. Plein de gens qui arrêtent pas de dire, ah, mais on n'est pas content, mais les ultras, ils font rien. Les gens attendent que les ultras se bougent, mais les gens, je leur dis, mais il n'y a pas que les ultras dans la vie. Si vous n'êtes pas content, oui, et que vous voulez gueuler, allez au Hayan avec une banderole, gueulez. Vous venez au stade,
ouais, mais
et gueulez.
Là, tu dis un truc qui est vachement important. C'est-à-dire
que je veux dire, en fait. Si nous, on fait rien, ben, rien ne se passe.
En fait, la particularité en France, c'est qu'à partir du moment où les ultras ont pris le monopole quelque part du supporterisme actif, et t'as une fonction de délégation de tout aux ultras. Et à Bordeaux, c'est caricatural parce qu'il y a que. En gros, ben, quand il doit y avoir de l'ambiance, ça doit être le virage chute qu'il met. Les autres tribunes ne pensent pas que ça peut être elle. Et quand il doit y avoir une action, c'est les ultramarines qui doivent faire, puisqu'il y a eux. Et donc là, effectivement, je suis d'accord avec toi, mais c'est lié à la place qu'ont pris les ultras. Les mecs délèguent, et bon. Et si on revient sur l'actionnariat, enfin, si je reviens sur ce que je disais, moi, il faudrait justement que des gens qui ne sont pas forcément dans cette logique ultra puissent s'impliquer. Et aussi sur l'actionnariat populaire, c'est mort-né. Je sais pas, je connais pas le projet bordelais, mais quand tu vois Nantes à quoi ils sont arrivés, c'est la principale association à Nantes. Ils sont plus de 2000 adhérents. Il y a des responsables économiques, politiques, qui sont complètement impliqués là-dedans. Bon, pour l'instant, ils sont pas en phase avec Kita, donc ça marche pas, mais. Ben, ils sont positionnés, ils ont commencé à lever les fonds. C'est un truc qui se fait pas en deux jours.
Ah, d'accord.
Mais je pense que si sur Bordeaux une dynamique se crée, et si tu regardes à Nantes, la Brigade Loire est complètement impliquée avec la Nantaise. Tu vois bien les différents niveaux. C'est pas les mêmes.
Alors messieurs, je vous coupe. Ah. La meilleure façon, encore une fois, d'en parler, c'est peut-être d'en parler avec Monsieur Christian Alvarez.
Je savais qu'il appellerait.
Qui nous a appelé.
Je vais faire un bel appel du pied.
Alors, Christian, oui, bonsoir
Christian. À tous. Alors qui vient habituer cette antenne. Donc on a, oui, c'est normal qu'il y ait un petit sifflement.
Ah d'accord.
Les moyens sont légers ici. Christian, tu voulais revenir sur une ou deux choses. Et alors, comme je te l'ai dit, on va. Alors, t'as Nicolas Orcade avec toi, donc pour parler de justement du mouvement éventuellement que tu essayes de lancer. On va juste essayer, messieurs, s'il vous plaît, de pas prendre trop de temps parce que on a plus beaucoup de temps d'émission. On aimerait au moins évoquer l'avenir du mouvement supporter avec notamment les nouveaux stades et celui de Bordeaux. Christian,
oui.
Vas-y.
Alors donc, je voulais d'abord saluer Monsieur Orcade, dont j'écoute les commentaires depuis le début d'émission et qui sont vraiment très très intéressants, très pertinents.
Merci.
Et je souhaitais également éclaircir certains points, en tout cas apporter certaines précisions. Voilà, je veux pas monopoliser l'antenne, c'est pas le but.
Oui.
Mais juste par rapport à ce qui s'est dit, notamment vendredi dernier, et qui a été rappelé là à l'instant sur le fait que il était soi-disant question que j'ambitionne de devenir président. Ah. Je sais pas d'où est venue cette rumeur farfelue, totalement absurde, mais c'est pas du tout la réalité.
C'est un trait d'humour, c'est exagéré.
On va rappeler, voilà,
t'as pas envie de devenir président.
Bien sûr, mais attention, cela dit, parce que dit comme ça à l'antenne, il y a des gens qui peuvent effectivement le croire et l'imaginer. C'est pas du tout la vérité. Hein. D'ailleurs, je l'ai jamais écrit, ni mentionné, ni même explicitement ou implicitement. Il y a aucun souci par rapport à ça. Hein.
Juste parce que bon, du coup, devenir président, tu l'as dit, c'est pas forcément ton truc. Par contre, Nicolas, du coup, avait parlé un petit peu rapidement de ton mouvement. On a qu'à le faire maintenant, tiens.
Oui.
Christian Ligne.
Oui.
Nicolas, donc tu nous disais que c'était peut-être j'ai l'impression que le sifflement te dérange.
Non. Ah, j'essaye de me concentrer, j'entends plusieurs bruits en même temps.
Tu disais du coup que pour toi c'était une initiative intéressante.
Alors moi je connais pas, enfin j'ai juste vu quelques documents, j'ai pas eu le temps de me plonger dans la documentation sur le projet de Christian. Ce que je dis c'est que l'actionnariat populaire est quelque chose qui à l'échelle anglaise a d'abord beaucoup pris progressivement et qui est maintenant reconnu, qui a des clubs dans lesquels les mouvements type les trusts type supporters directs sont actifs, qu'à l'échelle européenne, ça prend de l'ampleur, que l'Europe a considéré que l'actionnariat populaire était quelque chose à développer, donc les institutions européennes, qu'au niveau...
Michel Platini, notamment.
Alors, au niveau politique, les institutions européennes financent tout un ensemble de projets de supporters directs, la grosse association, fédération britannique qui travaille sur l'actionnariat populaire. Oui. Platini rencontre supporters directs régulièrement. Et en France, ça commence à se développer. Il y a eu un rapport parlementaire sur le fair play financier qui dit des choses sur les supporters, j'attire votre attention là-dessus, et qui dit aussi que l'actionnariat populaire a des choses à développer en France. Et on a donc cet exemple nantais, qui est un exemple extrêmement intéressant d'une très grosse association qui a su s'implanter très fortement au niveau local, et qui, si jamais la direction change, peut avoir un rôle à jouer. Donc je pense qu'à Bordeaux, il n'y a pas de raison que ça ne puisse pas se faire. Ceci dit, ça prend du temps, c'est-à-dire qu'il faut fédérer, je pense qu'il faut créer une structure associative, trouver une dizaine de personnes qui sont prêtes à bouger pour faire
s'investir,
ça.
Ouais.
À s'investir, c'est-à-dire que tout seul, enfin je ne sais pas combien tu es, si tu es tout seul.
Ah ben moi c'est simple, hein. C'est simple, de toute façon, je le dis très clairement, aujourd'hui le mouvement, l'idée en tout cas, l'initiative, je la porte à bout de bras. Donc, alors, il faut quand même savoir que vendredi, encore une fois, il s'est dit une grosse bêtise, dans le sens où on a dit, ou on a prétendu que j'étais pas suivi, qu'il y avait personne. C'est totalement faux. Il y a plus de, enfin, pratiquement aujourd'hui 4300 signataires de la pétition qui sont engagés, puisqu'ils ont signé sur une base, la base d'un manifeste qui montrait déjà la voie. Sur Facebook, on est déjà pratiquement rendu à 9000 personnes aujourd'hui qui sont en contact, plus ou moins avec tous les articles que je publie aujourd'hui et qui sont réguliers sur ma page. On retrouve notamment des supporters aujourd'hui de Bordeaux ou d'autres clubs peut-être, mais qui sont intéressés par le phénomène à travers la planète, et c'est assez spectaculaire, hein, de se trouver notamment des sympathisants jusqu'au Japon. Donc vous dire quand même que le mouvement est de très grande ampleur. Alors là où je suis seul, et aujourd'hui je lance un petit peu un appel, hein, je l'ai fait à plusieurs reprises d'ailleurs, c'est que pour franchir la dernière étape, si j'ose dire, de ce projet qui est quand même bien avancé, je pense, il me faudrait effectivement pouvoir collaborer avec des experts professionnels, notamment des juristes, avocats ou autres.
Je crois que tu avais demandé l'aide de Nicolas Orcade.
Alors, ça peut effectivement être très intéressant. De toute façon, je souhaite bien entendu entretenir un lien avec Nicolas Orcade, parce que je pense qu'on a certainement beaucoup de choses à se dire, et son expérience peut être très profitable à ce mouvement, c'est évident. Donc je souhaite que vous lui communiquiez mes coordonnées, là il n'y a aucun souci. Ça sera avec grand plaisir. Mais c'est vrai que par ailleurs, il me manque effectivement aujourd'hui cet appui logistique, si j'ose dire, de gens qui sont spécialisés dans le domaine notamment juridique, pour pouvoir concevoir et créer un document officiel qui pourra être présenté de façon donc très officielle au club pour effectivement concrétiser ce projet qui, pour moi, a de l'avenir. Vraiment, très sincèrement, j'y crois très fortement, parce que pourquoi tout d'abord ce projet initialement, c'est que j'ai simplement regardé un petit peu l'écosystème du public de Bordeaux, et aujourd'hui, de mon point de vue, il y a une masse de supporters, on en a longuement parlé, c'est vrai que c'est évident, mais il y a aussi beaucoup de gens, on en parlait aussi tout à l'heure, qui sont indépendants, qui n'ont pas forcément envie de s'affilier avec les ultras, mais qui apprécient énormément les mouvements ultras, mais qui n'auront pas ce tempérament-là d'agiter des drapeaux et de chanter dans les tribunes.
Nicolas, on a parlé tout à l'heure. Ouais,
voilà, tout à fait, c'est pour ça que je rebondis là-dessus, mais qui sont totalement impliqués dans le club, qui ont une volonté très forte de s'ancrer dans l'identité régionale et nationale de ce club, mais qui en sont aujourd'hui très concrètement écartés, presque chassés, j'allais dire. Les termes sont forts, hein, lorsque le président en place parle de faux supporters, l'allusion est évidente, c'est-à-dire que pour lui, il y a des supporters qu'il reconnaît et d'autres qu'il ne reconnaît pas. Et ouais, moi, c'est contre ça que je me bats, parce que Bordeaux a des supporters fidèles, mais il faut savoir leur tendre les bras, et notamment leur proposer une solution d'association ou de coordination qui soit différente des mouvements ultra, tout en étant complémentaire.
Ce qui serait intéressant de voir, c'est de s'inspirer, bon, je sais que tu as envoyé un dossier à supporter direct en Angleterre, mais ce qui serait intéressant, c'est aussi de...
Vous êtes bien informé.
Oui, je suis un peu supporter direct, en fait.
D'accord, très bien. J'attends une réponse, d'ailleurs, de leur part. Hein, j'attends une réponse.
C'est lui. Ce qui serait intéressant, c'est de se rapprocher des gens dedans, pour voir comment ils ont fait. Parce qu'en fait, là, pour l'instant, quand on voit ta page ou truc comme ça, on a effectivement l'impression de quelqu'un qui est un peu seul, même si c'est pas le cas éventuellement comme tu l'as rappelé, parce qu'il y a des gens qui ont soutenu, mais je pense que l'idée, ce qui a fait qu'à la Nantaise a marché, c'est qu'ils ont fait une association qui a fait progressivement boule de neige. Et je pense qu'il faut pas mettre la charrue avant les bœufs, faut trouver déjà des gens qui sont motivés et petit à petit progresser. Et je pense que c'est pas forcément dans l'opposition avec la direction, c'est l'idée.
C'est pas du tout une opposition. Ouais, hein.
C'est l'idée
c'est
de faire
une opposition. Ouais, c'est une solution alternative que je propose.
Mais c'est même pas une. C'est pas tant. Enfin, de mon point de vue, le mouvement supporter direct, c'est de dire les supporters peuvent faire partie du club aussi en termes de prise de décision et peuvent être des associés, des acteurs du club. Et donc, ça peut te positionner aussi bien en conflit avec le club, les dirigeants du club, quand t'es pas d'accord, qu'en parfait accord. Je pense que l'enjeu, c'est pas de savoir actuellement s'il faut être pour ou contre la direction actuelle. L'enjeu, c'est de voir est-ce qu'on peut créer un actionnariat populaire à Bordeaux qui rassemble les différentes franges de supporters et qui permettent de faire entendre la voix des supporters. Hein.
Absolument. C'est surtout le fait de contester aujourd'hui la direction. C'est pas le propos. Ce que je dis, c'est qu'effectivement, depuis de nombreuses années déjà, il y a une accumulation de mauvais jugements qui entraîne aujourd'hui à vivre finalement à crédit au sein des Girondins de Bordeaux, de ce club. Donc c'est une situation factuelle que je dénonce. Et je constate simplement qu'effectivement aujourd'hui, il est de mon point de vue absolument nécessaire que les supporters réinvestissent le stade, réinvestissent le club pour apporter des idées nouvelles à cette direction qui me semble quelquefois un peu, on va dire, embarrassée par des dossiers qu'elle n'a pas su gérer en temps et en heure et qui aujourd'hui commence à peser très très lourd dans les finances du club. On entendait hier notamment Nicolas Taverneau dire qu'il envisageait de se désengager. Alors il y a peut-être d'autres raisons,
c'est bien comme ça, camarade. Tu te doutes bien que M6 va pas se barrer comme ça du jour au
lendemain. Non, bien entendu. Mais il n'empêche que cette menace devrait donner à réfléchir aussi sur la façon dont on peut envisager de faire que ce club demain existe malgré l'absence d'un très gros investisseur tel qu'M6. Donc il y a des solutions qui doivent être aujourd'hui réfléchies, mûries. Moi j'en ai proposé une, mais c'est peut-être pas la seule. Hein.
Christian, ce que je te propose, écoute, c'est que tu nous rappelles vendredi, on aura vraiment le temps d'en parler.
D'accord.
Là, on a juste Nicolas qui est avec nous, je vois qu'il reste 10 minutes d'émission, on a encore parlé nouveau stade, et Nicolas sera pas là vendredi. D'accord.
Donc, d'accord.
J'imagine que bon, vu que tu nous as déjà appelé plusieurs fois, ça te dérangera pas nécessairement.
Non.
Vendredi ou quand tu veux, hein, mais
j'ai plein de questions à poser, j'ai plein de trucs à discuter. Non,
mais c'est pour ça, parce que Seb est chaud là. Si vous partez, on explose.
Je sens, exactement, parce que là, je sens que c'est. Alors, ça va être super intéressant, c'est pas le problème, mais on va partir pour. Voilà, et derrière, on aura terminé.
C'est pour ça que.
On te dit à plus tard, du coup. Ça te va?
Si tu veux rappeler le nom de ton blog, éventuellement, ton site, ton projet.
Oui. C'est tout simplement, effectivement, c'est communauté, donc sans accent. Donc communauté -6 renouveau-fcgb.blogfort, alors fort c'est le chiffre 4, ever, E-V-E-R, .com, tout simplement, voilà.
Et bien super, écoute, on te remercie et puis on te dit du coup à vendredi.
C'est moi qui vous remercie, je remercie également monsieur Bourcade et puis donc je souhaite effectivement, si c'est possible, maintenir éventuellement un contact avec lui, voilà.
Et bien écoute, je pense qu'il y aura moyen, voilà, il m'a l'air d'être tout à fait d'accord.
Alors, d'accord.
Quelqu'un de très sympathique, donc il n'y aura pas de soucis, voilà.
J'en doute pas, je le remercie.
Son micro.
Merci beaucoup, à la prochaine, bonne soirée, au revoir.
Ciao.
Allez, messieurs, on va reprendre s'il vous plaît. Emery, ouais. Est-ce que je peux te laisser relancer du coup avec l'arrivée des nouveaux stades?
Parce que la partie sur le traitement médiatique des ultras, on l'a fait, le Amalgame Hooligan avec Hooligan Ultra aussi. Tout ça, ce traitement ultra. Et donc l'arrivée des nouveaux stades, je vais essayer de reprendre la question, pas sans la lire bien évidemment, mais reprendre
la question de la page 120, la question.
Ouais, voilà, la page 120, alinéa B, tout petit caractère avec mes yeux de taupe en plus, ça va aller.
En relation, dans le troisième paragraphe,
4 du code pénal. Oui, donc comment on pourrait la formuler? Ben, on voit qu'au Paris Saint-Germain, on l'a un peu évoqué, il y a un club qui essaie d'avoir un très fort contrôle social sur son public, qui impose des règles, ben. Précise, on va dire, pour être poli. Tout à l'heure, t'as évoqué même que certains étaient peut-être flirtant avec l'égalité, mais bon, voilà. Est-ce que, comme pas mal d'ultra le pensent, dans une vision peut-être un peu catastrophiste, pessimiste, je sais pas, enfin bon, tu vas nous le dire. Est-ce que avec l'arrivée des nouveaux stades en vue de l'Euro 2016 et de l'envie que ça se passe bien et que derrière les clubs aient peut-être un peu plus de contrôle de leur public, est-ce que ce qui se passe à Paris pourrait se généraliser dans d'autres clubs?
Alors oui et non.
là de toute façon c'est effectivement un enjeu essentiel sur les transformations des stades. On est dans une vraie transformation du football aujourd'hui. Alors déjà le modèle parisien n'est pas généralisable pour une raison très simple, c'est qu'à Paris ça marche parce qu'ils ont les moyens d'avoir des stars sur le terrain et ils ont un bassin de population qui est extrêmement nombreux et privilégié. Donc ils peuvent augmenter le prix des places, ils peuvent contrôler très fortement leur public, il y aura toujours des gens qui voudront y aller, ça il n'y a aucun doute. Tu peux pas faire la même chose à Saint-Etienne pour des toutes simples questions économiques, tu peux pas faire même chose à Marseille, même à Lyon, je suis quasiment sûr que tu peux pas le faire. Donc les gens qui disent Paris va se généraliser, ça peut se généraliser à l'échelle de Paris et Monaco, mais bon, Monaco c'est une problématique un peu différente, mais non, je pense que ça peut pas se généraliser. Par contre, l'idée qu'il y ait une transformation des stades et une volonté de créer ce que j'appelle un nouvel ordre des stades et de contrôler le public, oui. C'est-à-dire que si on reprend l'histoire très vite, en gros jusqu'aux années 70-80 avant l'émergence du mouvement ultra, c'est sur un ordre des stades qui est très consensuel, en ce sens que les supporters sont proches des dirigeants, il n'y a pas d'opposition, il y a des incidents mais qui sont pas très importants, qui sont pas considérés comme vraiment graves, donc ça pose de problème à personne. L'ordre des stades change entre 85 et aujourd'hui avec l'émergence des ultras qui vont entrer dans un ordre des stades plus conflictuel, pas seulement parce qu'il y a de la violence verbale, éventuellement de la violence physique, mais aussi parce que on crée une opposition entre les clubs de manière beaucoup plus forte, et aussi parce qu'on se positionne en syndicat des supporters qui revendiquent des trucs. Et de fait, ce qui s'est passé depuis les années 80, c'est que les ultras se sont appropriés les virages en imposant un peu leurs règles. Et ce qui se joue aujourd'hui très clairement, c'est qu'il y a une volonté depuis globalement 2009-2010, qui est vraiment une saison charnière avec la constitution notamment de la division nationale de lutte contre l'hooliganisme, il y a la volonté de reprendre en main ces tribunes qui étaient devenues des tribunes autonomes. Et ça, tu le vois à l'échelle effectivement de la France, la volonté de contrôler très fortement les ultras, une pression sociale par les policiers qui est très forte. Donc il y a un projet de réappropriation quelque part par les instances des tribunes, des virages, ça c'est sûr. Par contre, ce qui me gêne un peu dans le discours des ultras, qui est de dire le mouvement va mourir en 2016, c'est que c'est un discours un peu fataliste. On a l'impression qu'en intercentrant les ultras, c'est que de toute façon les autorités sont contre nous, donc on va mourir, donc on peut rien faire. Et ça m'embête parce que en fait il y en a certains qui en véhiculant quand tu vas sur les forums ou quand tu discutes avec des mecs le mouvement ultra c'est ça doit pas bouger, qui arrivent pas à s'adapter. Et en fait si on regarde l'histoire du mouvement ultra, il s'est fichtrement adapté entre 85 et aujourd'hui, c'est pas du tout la même chose, les gens ont bougé, etc. Et aujourd'hui on est clairement dans un climat qui est pas favorable au niveau des instances au mouvement ultra, mais malheureusement le mouvement ultra arrive pas non plus à se donner les moyens de défendre sa propre existence. Parce qu'en fait, si on regarde bien sur certains sujets, les ultras peuvent fédérer très largement autour d'eux. C'est-à-dire que quand les ultras se battent sur le prix des places, quand les ultras se battent sur l'animation des stades, contre certaines programmations aberrantes de matchs, ils vont être soutenus très largement. Le problème, c'est, on en revient à ce qu'on disait dans la première heure, comme pour le grand public, ultra ou hooligan, ça reste un peu confus, il y a des gens qui osent pas soutenir les ultras parce qu'ils savent pas exactement ce que c'est. Et donc, moi, ça fait des années que je travaille là-dessus, puis je me suis accepté de m'impliquer dans plusieurs projets menés par le ministère des Sports pour essayer de renforcer une approche qui soit pas uniquement répressive des supporters, mais aussi de favoriser l'intégration des supporters dans le monde du foot. Donc clairement, le problème de la France actuellement, c'est qu'il n'y a pas de volonté, contrairement à d'autres pays, d'intégrer les supporters et de les considérer comme des interlocuteurs. Et le deuxième problème, et l'un et l'autre se renforcent, c'est que du coup, les ultras, qui sont aujourd'hui les supporters les plus actifs, n'ont pas réussi à se structurer. Il va y avoir à certains moments la coordination des ultras qui marche pendant quelques mois et qui porte des revendications communes, va y avoir des manifestations à certains moments, mais le mouvement ultra n'a pas su se constituer en mouvement social, notamment parce qu'il est, clivé entre des tendances très différentes. Et puis là, aujourd'hui, il y a de tels clivages entre certaines tribunes que c'est difficile de faire quelque chose de collectif. Mais juste pour finir sur cette idée-là, je pense quand même que le mouvement ultra pourrait, malgré tous ces antagonismes, trouver un moyen d'avoir une plateforme de revendication qui soit à peu près claire à l'échelle nationale et qui définisse vraiment ce qu'ils ont en germe entre eux sur ce qu'est le football populaire, qu'est-ce qu'ils aimeraient. Parce que on le voit actuellement sur Paris, quand certains supporters défendent une partie de l'ancien Parc des Princes, ils rencontrent un écho quand même. Il y a quand même beaucoup de médias, enfin 20 minutes a quand même fait 20 minutes, enfin chacun a quand même fait une sur ultra contre les ultras sont trop contrôlés. Si les ultras arrivent arriver à se fédérer.
Libération qui a fait pas mal d'articles aussi.
Oui, Libé, après, si tu veux, c'est aussi des questions de personnes. Hein. Il y a quelques journalistes qui sont sensibles à ça, ne serait-ce que parce qu'ils ont un passé de tribune. Hein. Faut pas se, faut, oui. Ils connaissent les choses. Et donc, il y a
un certain DR.
Non, mais
non, pas que lui.
Non, il y a des choses un peu partout, mais l'idée, c'est que il y a un certain nombre de causes que défendent les ultras qui sont consensuelles, largement, au-delà de. Il y en a d'autres qui le sont beaucoup moins, et ce qui est difficile, c'est que quand les gens sont positionnés face à ces ultras, ils savent pas trop bien quelles sont exactement les revendications. Et il y a eu un congrès des supporters qui était organisé par le ministère des Sports en 2010 qui a fait pchit, parce qu'un mois après, Yann Laurence, le supporter de Boulogne, est tué par des supporters d'Auteuil. Maintenant, je pense que même si toutes les tribunes pourront pas être présentes, je pense que ce serait peut-être aux supporters de dire, bon, on essaye de voir, nous, si on veut continuer à exister dans ces nouveaux stades, continuer à avoir une place. Il y a un exemple qui est intéressant, c'est Nice. Les ultras ont investi le nouveau stade, ils ont reconstitué une association. Ça veut dire que le mouvement ultra est pas forcément mort. On voit, c'est intéressant de comparer Nice et Saint-Etienne. D'un côté, t'as une association qui disparaît, qui est les Green Angels, qui continue à essayer de fonctionner tant bien que mal, mais en conflit très fort.
Uniquement
sous forme associative, voilà. Mais qui est en conflit avec le club. Là, on voit encore sur le dernier match, c'est tout un enjeu, ne serait-ce que poser la bâche. Et d'un autre côté, à Nice, où ça se reconstitue. Donc je pense que les choses ne sont pas complètement jouées, et que ça dépend des autorités, bien évidemment, mais ça dépend aussi des ultras et de savoir ce qu'ils veulent exactement.
Juste, Aymeric, je vais juste... je pense que la question à moi. Je vais juste compléter. Ouais. J'entendais, alors c'était une discussion qu'on avait après le déplacement à Francfort, où c'est vrai qu'on a vu une tribune ultra qui nous a beaucoup plu.
Ah ben, le mouvement ultra est au top en Allemagne.
Hein. Justement, c'est là où je voulais en venir. C'est que entre le côté français où justement les groupes eux-mêmes disent « Ah, en 2016, on va disparaître », l'exemple allemand qui finalement prouve le contraire, puisque c'est avec la Coupe du Monde aussi que l'essor, et un mouvement ultra là-bas qui est plutôt à la mode.
Tout à fait. Même s'il y a des difficultés aussi autour de la pyrotechnie notamment.
Oui, mais est-ce qu'on peut pas imaginer finalement que, je veux dire, l'image ultra est quand même, j'ai l'impression, meilleure en Allemagne que ce qu'elle peut être en France.
Ben, le problème de l'Allemagne, c'est qu'il y a plusieurs choses.
Et je finis juste de poser ma question.
Ah, j'avais pas compris. Je croyais que la question était finie. Vas-y.
Question rallonge. C'est juste pour te demander, est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, les ultras en France peuvent aussi redevenir à la mode avec les nouveaux stades qui arrivent?
Peut-être, mais ça va être compliqué parce que en Allemagne, il y a plusieurs choses. Il y a d'abord une tradition du dialogue social que tu as pas en France. T'as le fait qu'il y a une culture football qui est pas la même et une culture supporter qui est plus ancienne, et il y a l'idée que les supporters peuvent être des acteurs positifs. Pourquoi le mouvement ultra s'est développé en Allemagne? C'est très intéressant parce que dans les années 90, il se développe pas parce qu'il y a une culture plutôt anglo-saxonne, des copes ou des hooligans qui est très forte. Le mouvement ultra se développe parce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelle les fan projects, donc des projets de supporters qui consistent à faire du travail social avec les supporters d'un côté et d'autre part à créer le lien entre les supporters et tous les autres acteurs, le club, la police, les médias, etc., vont dire le mouvement ultra c'est un truc bien, donc on va les soutenir. Et donc localement, les fan projects ont soutenu le développement des mouvements ultra parce qu'ils pensaient que c'était mieux que les hooligans. Ils ont aidé aux premières constitutions de fédérations de supporters engagés, notamment de supporters ultra. Ils ont organisé les premiers congrès qui ont permis de rassembler des ultras de toute l'Allemagne et de les confronter aux acteurs de la ligue ou de la fédération.
En France, on essaie de faire ça marche pas, on n'arrive pas à faire de compromis.
Mais en fait, il y a un gros problème en France qui est du côté des institutions. En fait, les institutions sont fermées au dialogue. Il y a eu des petits moments d'ouverture, mais jamais longues. Et en plus, chaque fois que le dialogue s'est un peu ouvert, il y a toujours eu quelque chose qui a cassé derrière. Donc, je parlais de la mort d'Yann Laurence, par exemple, qui casse tout le processus.
Et puis, des fois, c'est les ultras aussi qui ont du mal à s'entendre entre eux.
Oui, voilà. Si tu regardes l'histoire des coordinations d'ultra, en France, il fallait que chaque fois, ceux qui ont tenté de jouer le jeu ont dû convaincre les autres que ça valait le coup de discuter avec les institutions. Pour moralité, à chaque fois, aboutir sur rien. En Allemagne, ils ont des incitations plus fortes parce qu'ils savent qu'ils sont légitimes à la table des négociations. Ils gagnent pas toujours, des fois ils perdent. Mais tu as eu un dialogue sur la pyrotechnique qui a été long en Allemagne. Bon, ça a fini en impasse, mais ils ont pu discuter quand même très longuement. Là, quand il y a eu le 12 décembre dernier, les grosses manifestations d'ultra contre, bon, on va pas rentrer dans les détails, mais contre des recommandations de la Ligue par rapport au club, ils ont eu quand même une marge de jeu parce que le système leur permet de s'exprimer. Et donc, même si tous les groupes ultra s'entendent pas entre eux et tous ne sont pas dans les fédérations d'ultra national, t'as quand même l'idée que si tu te mobilises, tu trouveras du répondant en France. Quand les ultras sont mobilisés en France, bon, je prends le dernier exemple qui est pour moi quand même véritablement effrayant sous certains aspects. Ils réussissent à manifester à 1100
à Montpellier
en 2012. On y était allé.
On était à Lens.
Ça c'est une manifestation en 2008.
Manifestation à Montpellier pour le Castille, après avoir perdu son œil.
Après la blessure de Castille, t'as un millier d'ultra qui viennent de toute la France. C'est à la fois beaucoup et pas beaucoup, mais c'est quand même significatif. Ils font une motion. Il n'y a aucun retour des autorités. Et ça, c'est dramatique. C'est-à-dire que la seule réponse des autorités, c'est oui, on va continuer à lutter contre l'hooliganisme, ce qui a rien à voir finalement avec le schmilblick. Et donc, dès que les ultras arrivent un peu à se constituer, ils tombent sur une porte qui est fermée. Et donc, finalement, c'est le cas de Paris. Au lieu de dire, parmi les supporters aujourd'hui problématiques, il y en a qui sont de toute façon centrés sur la violence, et eux qui sur lesquels il n'y a aucune... Un des intérêts au monde du foot ne fait même pas sens. Mais il y en a d'autres qui peuvent être aujourd'hui considérés comme problématiques parce qu'ils ont des codes qui sont un peu différents, mais qui, eux, ont une volonté d'être positifs dans le monde du foot. En les traitant tous pareil, on les amalgame, finalement. C'est ce qu'on disait sur Under HPSG. On va traiter de la même manière celui qui vient pour se taper dans les bois et celui qui veut juste assister à son match sans respecter les codes qui jugent liberticides du PSG. Donc ça, c'est un problème au niveau des autorités françaises qui me semble très important. Et du coup, moi là, j'ai accepté, je sais pas, à mon avis, je suis pas sûr que ça mène à quelque chose. Il y a un nouveau groupe de travail au niveau du ministère des Sports sur le modèle durable du football français.
Le nom est déjà sympa. Ouais. Tu nous as dit que c'était après-demain, pardon.
Non, après-demain, il y a la deuxième réunion. Ça a été lancé fin septembre. Donc l'idée, moi j'y suis pour justement défendre ces idées d'intégration des supporters dans le monde du foot et considérer qu'ils peuvent être aussi des acteurs d'un modèle durable du football français, qui sont des partenaires. C'est pour ça que l'actionnariat populaire, moi je ne me prononce pas sur le cas bordelais que je ne connais pas, hein, mais que l'actionnariat populaire est une solution intéressante parce que ça implique le supporter, ça le responsabilise, ça le fait être écouté.
Ça lui donne une place centrale, quoi, finalement. Enfin,
ça lui donne une place importante et ça lui permet de s'exprimer. Il y a tout un ensemble de tensions dans les stades aujourd'hui avec les clubs qui sont liés non pas tant à des problèmes de violence qu'à des problèmes d'incompréhension ou d'insuffisance de discussion et négociation avant. Donc oui, il y a des choses à faire. Donc moi, à travers ces projets au niveau du ministère des Sports, j'essaye de voir si ça peut bouger au niveau institutionnel, mais je ne suis pas très très optimiste pour être honnête, même s'il y a certains rapports et plusieurs rapports récurrents à l'échelle européenne et à l'échelle française qui disent que les supporters doivent être intégrés. Après, au niveau supporter, il y a deux enjeux pour moi. Il y en a même trois. Il y aurait le développement de l'actionnariat populaire à l'échelle française avec d'autres projets que celui de Nantes. Il y aurait la reconstitution de fédérations traditionnelles de supporters. Pendant longtemps, il y a une fédération des associations nationales de supporters, la FAS, Fédération des associations de supporters français à l'échelle nationale qui rassemblait les supporters traditionnels, officiels.
De ce dont on a parlé en début d'émission.
Ouais, donc type 12 Lensois associé serait pas mal qu'il se reconstitue parce que finalement il porte une vision du foot et moi j'ai toujours pensé qu'il fallait, si ce n'est une coordination des ultras, au moins quelque chose, un groupement qui défende, qui défende leur vision du foot, parce que mine de rien, derrière le mouvement ultra, il y a aussi une vision du foot qui mérite d'être défendue. Et donc ça suppose aussi que les ultras soient capables de faire le tri aussi dans leurs priorités. On parlait avec le cas de Paris. Moi, je suis tout à fait favorable à ce qu'on retrouve l'ambiance du parc d'avant. Par contre, je suis pas tout à fait favorable, voire pas du tout favorable à ce qu'on retrouve la violence et le racisme. Donc il faut aussi que les ultras soient capables à certains moments de faire leur autocritique, de mon point de vue, et donc de voir qu'effectivement, si ils se sentent condamnés, c'est en partie parce que les autorités sont pas favorables à l'ombre de son pantalisme, ce qui est en partie vrai. Mais il faut quand même voir aussi que dans beaucoup de clubs, ils sont bien contents d'avoir des ultras. Donc il y a, parce que c'est eux qui mettent l'ambiance, c'est eux qui entretiennent une certaine...
Il y a un jeu de dupes entre les deux.
Une
instrumentalisation au final.
C'est
des abonnements que tu vends.
Oui, non, mais là tu poses une question qui est fondamentale. On va repartir pour une demi-heure et on peut pas. Mais l'enjeu, c'est vraiment de créer des relations claires et saines entre le club et ses associations de supporters.
On va partir sur de la philo avec la catharsis aussi, tout ça.
Ouais, mais... non, mais là, on finit à 3h du matin, on va pas être bien. Mais si on reste sur les relations du club avec ses supporters, il y a vraiment des choses à clarifier. Pour l'instant, on est essentiellement sur des rapports de force, des trucs plus ou moins occultes, etc. Donc, clarifier un peu les droits et les devoirs des supporters, c'est là-dessus qu'on avait bossé dans le livre vert du supporterisme que j'avais fait avec deux collègues, Patrick Mignon et Ludovic Lastrelin, en 2010, suite au congrès des supporters. Et c'est des trucs encore auxquels je crois. Et donc, si on revient à ce qu'on disait sur les ultras, je pense que il y a encore moyen de réfléchir à qu'est-ce qu'ils veulent être demain. Il y a différents différentes voies qui sont possibles. Alors soit tu peux dire ben, on reste underground et puis on verra bien jusqu'où on ira, que je peux comprendre, hein, qui on le sent confusément que c'est pas ma position, parce qu'en plus je suis vieux, mais je pense que tu peux être un mouvement ultra contestataire, porter une vision du foot qui soit critique, sans être forcément violent. Après, d'autres me diront que c'est pas véritablement ultra, mais dans l'histoire du mouvement ultra français, il y a plein de gens qui n'étaient pas violents et qui se battaient jamais. Moi, personnellement, je me suis... Bon, alors après, certains vont dire que j'étais pas véritablement ultra, mais j'ai été dans un groupe ultra, je me suis jamais tapé sur un supporter adverse. Je pense que, bon, apparemment...
Nous trois autour de la table, ouais, non plus, enfin, Seb, Clément et moi.
Vous avez des gueules de tueurs, quand même. Vous,
mais, ouais, on est un peu barbu, un peu poilu, un peu...
Mais non, mais blague à part, voilà, le mouvement ultra peut aussi s'interroger sur ses priorités. Mais bon, là, on va finir très tard.
Ouais, et ça sera le sujet d'une prochaine émission.
Ce sera limite la conclusion, le mouvement ultra a les moyens de survivre.
Moi, je pense, ouais, je pense.
Bah écoute, c'est une petite note d'optimisme, en tout cas.
Ouais.
Bon, on va en tout cas te remercier, Nicolas, d'avoir été avec nous.
C'est moi qui vous remercie pour l'invitation.
Ah bah, oui.
C'est plutôt nous, franchement, c'est plutôt nous.
Sur ce coup-là, je crois que c'est nous qui sommes redevables. Bon, j'espère au moins que la bouffe était bon, à défaut d'être bonne.
Du rôti, du saucisson. Bon, le tiramisu est passé, je tiens à vous dire. On n'est pas RIG, bouffer du tiramisu.
Je suis allé mettre une petite cuillère dedans, c'est mangeable. Bon, c'est pas, ça a mal supporté le voyage, quoi.
C'est qui va finir, après, t'inquiète pas. C'est ça, c'est son taf dans l'émission. Ouais. Non, mais merci beaucoup en tout cas d'être venu. On va se tenir au courant, mais peut-être qu'une émission sur des... Bon, alors pas tout de suite, hein, mais
il a envie de faire une émission sur les publics à l'échelle mondiale. Chers auditeurs.
Seb, Clément et moi, on est vraiment passionnés par toutes ces questions sur des thèmes plus généraux.
Et donc, du coup, c'est vrai qu'on va... Il va falloir en parler, de toute façon.
Il va y avoir la Coupe du Monde au Brésil. On va être qualifié, Patrice Evra a marqué un triplé
de la main, et puis voilà,
triplé de la main, exactement. Tu vois, comme ça on n'en parle plus. Non, mais en tout cas, merci beaucoup.
Merci à vous.
Est-ce que tu as quelque chose à vendre en ce moment, un truc? Non, rien du tout.
Moi je vends rien.
Bon,
on sait jamais. On a toujours des trucs à vendre.
Une voiture, et les sociologues et profs, tu veux qu'ils vendent quoi?
Oui, un livre éventuellement.
Non, mais
je vends ma BX Break.
Si vous voulez, comme je participe à SoFoot, vous pouvez acheter SoFoot, ça fait pas de mal à la rédaction.
Puis c'est une bonne revue.
En plus, ça vous culture un peu.
Culturez-vous,
les gars.
Du tout.
Contre-culturez-vous.
Bon, Djibril en couverture.
Et donc, vous pouvez lire le site. Les sujets supporters sont aujourd'hui essentiellement sur le site, même s'il va y en avoir dans le prochain numéro du mag aussi.
Et ben, c'est super. Et ben, écoute, on te
remercie. Acheter Génération Supporter aussi.
Sur le site, toutes les offres. Voilà. Spécialement pour.
Et je tiendrai encore une fois à dire, on en a parlé tout à l'heure, mais je tiendrai à faire tu vas voir que c'est tout, encore une fois, très sérieusement radiophonique. Un énorme bisou à Nico, du coup, DMB IDF, qui nous a permis, il était à l'écoute, il a aimé l'émission, donc voilà.
Ah bah, j'espère! Grâce à lui qu'on l'a fait!
Exactement, donc je lui ai dit que, voilà, on le remercie énormément pour tout ce qu'il a pu faire pour la réalisation de cette émission, et puis bah, écoutez, longue vie, on espère à tout ce monde des tribunes, quel qu'il soit, et aussi divers soit-il. Voilà, longue vie à tout ça.
Monde des tribunes que l'on retrouve bien évidemment jeudi soir contre Nicosie, où on sera, comme tout le monde le sait, 25 000 à peu près.
Ah oui, si j'ai un appel, j'ai un appel important. Ah,
si vous avez une place.
Si quelqu'un de responsable veut bien amener mon fils, je ne serai pas là jeudi soir. J'ai testé, personne ne veut l'amener parce que personne n'a envie d'aller voir un jeudi soir. Enfin, c'est quand même pathétique sur l'état des Girondins dans ma famille, personne ne veut l'amener.
Dites-vous, c'est peut-être l'avant-dernier match de l'histoire du Parc Lescure Coupe d'Europe.
Ouais.
Sachant que le prochain on la jouera sans doute pas.
Il faut y aller quand.
Ah ouais, c'est pas idiot ça.
Moi il y a un truc qui m'a rendu fou quand même, ça j'aurais fini là-dessus. Quand Francis Gilot dit tout le monde s'en fout de l'Europa League, c'est pas complètement faux, mais c'est scandaleux. Enfin je veux dire, l'an dernier.
Oui, c'est pas complètement faux, oui.
Mais c'est l'an dernier, il y a des matchs qui nous ont fait vibrer. Enfin Bordeaux Étoile Rouge c'était quand même fantastique. Et même moi je trouve qu'on a sous-médiatisé la victoire contre Kiev parce que finalement on réussit à éliminer un club qui est beaucoup plus fort que nous. Certes vilainement, mais quand les Allemands faisaient ça dans les années 80, on trouvait ça génial.
Et Gary Lineker avait dit. Pareil. Ouais. Mais, par contre, juste, et après on finit, promis. Il y a un truc sur ça.
Il est incontrôlable, lui.
Non, mais vas-y, attends, il est bridé depuis le début de l'émission.
Je laisse Seb poser sa question.
Mais on dit la Coupe d'Europe. Moi, le premier, l'année dernière, la Coupe d'Europe, c'était bien. Mais franchement, cette année, la Coupe d'Europe, je m'en cague. Moi, ce que je veux, c'est que mon club, il se sauve. Après,
se sauver, t'as vu les équipes de chair aussi.
Voilà, écoute, la voix de la raison. Si t'avais les moyens en termes de quantité et de qualité de la jouer à l'Europa League, je te dis d'accord, on la joue.
Mais là, si t'as plus, même
c'est peut-être la dernière
même en termes de quantité, t'as pas l'effectif.
Ouais, mais ça reste la Coupe d'Europe, je sais pas, moi ça me fout toujours la trique de voir la Coupe d'Europe. C'est pour ça que je supporte mon club, pour les titres et pour la Coupe d'Europe.
Non, t'as pas le droit de négliger ça. Eintracht Francfort Bordeaux, ça nous a fait pleurer. Le match m'a fait pleurer. Moi, je suis descendu la poubelle au début du match. Je reviens avec mon fils qui pleurait déjà parce qu'on perdait 1-0. C'est un chemin de croix, mais n'empêche, t'as vu la tribune en face. Enfin, c'est la Coupe d'Europe, quoi. Les clubs français négligent trop la Coupe d'Europe.
On l'a bien vu, nous.
Et nous, notre fierté l'an dernier, c'est de ne pas l'avoir négligé. Je pense que moi, je préfère qu'on finisse 16e et qu'on joue la Coupe d'Europe, parce qu'en 96, quand on arrive en finale, certes, on s'est galéré toute l'année, mais on est en finale et ça vaut le coup. On peut pas négliger la Coupe d'Europe. On a quand même un effectif de rêve. Je veux dire, on a devant, on a Diabaté, Jussier, Roland qui a failli marquer un lob fantastique.
David Bellion, là.
Non, on peut pas récupérer tout le monde non plus.
Mais de rien, hier, il y avait les trois sur le banc. Il y avait Chalmers, Bellion, Ben Kalfa.
Et Sako, un jour, nous marquera peut-être un but en.
Pour gagner le titre en fin de saison.
En CFA ou en.
Oui, il a marqué ce week-end dans CFA. Mais...
Il a marqué en CFA, non.
Moi, je pensais à Monaco.
Non, mais tu m'avais demandé de donner des pronostics. On sera pas champion cette année.
Ah, non, mais c'est la vie de Nicolas. Ce que dans les pronostics, c'est que juste après l'émission, hors antenne, donc.
Je les ai pas préparés, donc.
On va prendre 5 minutes, on va préparer les pronostics Coupe d'Europe et si jamais tu veux faire les tirs.
On gagnera pas la Coupe d'Europe.
Non, mais pas forcément pour Bordeaux, mais des autres matchs en général. Allez.
Prends-les sur ton téléphone.
On va, te remercier. On te dit à une prochaine.
Ouais. Merci.
Et on précise que le podcast devrait sortir. Tire assez vite.
Ouais, 2014, ils ont bon espoir.
Ouais, allez. Tu déconnes, mais c'est presque ça en ce moment. Bon retour demain. Et puis, on te dit une prochaine. On va vous laisser un auditeur dirigé. On vous remercie pour votre attention encore une fois. On espère que l'émission vous a plu. Nous, elle nous a beaucoup plu. Et on vous dit, à vendredi avec l'après-match.
Pour décrypter le 8-0 qu'on aura mis, c'est malheureux chypriote. Qu'on a perdu d'ailleurs ce week-end dans le championnat chypriote. Ouais. Contre je ne sais plus quelle équipe.
Jeudi soir, l'Europa League, c'est définitivement terminé.
Ils avaient pas perdu Francfort avant de nous jouer aussi.
Non.
Ils avaient perdu 3-0 contre.
Non,
ils avaient gagné. Ils avaient gagné
3-0 à Brême.
Francfort était en pleine bourre.
Là, ils ont fait match nul.
Ah, ben nous ont bien bourré, oui.
Je sais pas où.
Bon, allez. C'est sur cette parole poétique qu'on va se quitter.
Ah, bah, toujours là.
Et puis, on se dit à la prochaine. Ciao, à vendredi. Passez une bonne semaine.
Et allez, Bordeaux.
Exactement. Bon courage pour le boulot. Les gars, les phrases, histoire qu'on impressionne notre invité. Alors, je t'explique le principe.
Alors,
je crois pas
qu'on va impressionner grand monde avec ça.
30 secondes à une phrase, en fin d'émission qui te plaît, voilà.
D'accord.
Donc, emmener mon gosse au stade, ça peut être par exemple.
Non, ça c'est bon. J'ai déjà dit ça.
Allez, Seb.
Bordeaux, c'est pour toi que tu joues, mais c'est les tiens que tu représentes.
Je me rends compte en fait à quel point c'est ridicule. C'est parce que quand on a un invité, on n'ose pas la dire fièrement. Allez, un seul animal la loutre, une seule mentalité insoumise, il y a Sudé et Rico.
Fais-moi mal, Carlos.
Et Nicolas, du coup
Moi, j'en ai deux. D'abord, le football n'est qu'un jeu. Ce qui m'énerve un peu actuellement, c'est qu'on parle beaucoup d'économie, mais le football, c'est avant tout un jeu. Ouais. Et puis, je voudrais saluer tous les pélicans bleus qui se reconnaîtront.
D'accord, on leur passe le bonjour également. Et. Bonne soirée à vous, à très vite dans la Girondanalyse sur Girondin90.7 et sur le net sur Girondin33.com et Girondinanalyse.com. Ciao, bye bye.
Tous les lundis et vendredis de 21h à 23h, écoutez Girondanalyse sur RIG en 90.7 FM et sur notre site Girondanalyse.com. Vous y retrouverez aussi les podcasts des émissions, les interviews, le chat et toutes les infos sur les Girondins de Bordeaux. A bientôt dans Géant.